Vendredi matin sur Radio Bulle 93.6. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va toujours très bien le vendredi matin puisque j'ai Jean-Paul Delvaure avec moi en studio et même du public. Bah oui, quand même.
Bonjour Samia,
tu
bonjour à tous.
Tu crois quand je dis ça, hein. Tu sais que tout ce que je dis, je le pense, moi.
Mais j'espère voilà. Bien.
Quand je dis rien, c'est que j'en pense pas moi.
Donc Samia, je suis très heureux de te retrouver pour une troisième chronique de Faites Entrer l'Artiste,
ouais.
Où nous recevons donc pour la troisième fois Cédric Mollier. Bonjour Cédric.
Et bonjour Cédric.
Bonjour.
Du bruit.
Ils sont pas très réveillés.
Il y a quand même 70 personnes dans le studio.
Non, mais on a quand même de la chance quand même le matin comme ça d'arriver à mobiliser des gens pour venir voir les artistes.
Ce sont les fans de Cédric.
Ouais, c'est
normal parce qu'il vient
de
sortir un album magnifique, De mon âme à la tienne.
Super.
9 titres qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes.
Que demande le peuple.
Qu'on peut retrouver aussi en édition physique. Il y a 500 collectors, c'est ça?
Exactement.
CD, 500 collectors.
Exactement. J'ai hésité. Ça fait 10 ans que j'ai pas sorti d'album physique. J'ai sorti des albums tous dématérialisés depuis des années, parce que c'est des coûts assez importants et moi j'ai pas forcément une diffusion énorme, bon voilà, mais là c'est un album qui est très important pour moi et j'avais vraiment envie de lui donner corps et je trouve que de l'ancrer dans la matière c'est encore quand même quelque chose qui moi
sûr,
a du sens.
Il faut
on peut feuilleter le livret, on peut lire les textes,
arrêtez de tout dématérialiser là, punaise, on a besoin des objets.
C'est vrai que c'est bien,
dit la meuf matérialiste. Non, mais quand même, ça nous rattache. C'est une histoire, un objet, quand même. J'sais
ah
pas,
bah ouais. Mais non, mais c'est clair. Je suis très content de l'avoir fait, vraiment.
Super.
On en reparlera de cet album. On en a déjà parlé, on en reparlera.
Absolument.
Et là, on va reparler de tes talents de musicothérapeute.
Oui.
Parce que tu t'es découvert tout d'un coup.
Ouais. Ben oui, écoute,
une envie de rendre service et de faire du bien par la musique.
Exactement. Je pense qu'on en était à peu près resté là vendredi dernier. Du coup, j'ai eu ce moment où j'ai voulu me mettre ma musique encore plus au service des autres et pas juste être sur scène dans la lumière et que ça flatte mon ego. Et...
Pourtant, t'as eu de la lumière avec Francis Cabrel qui t'a permis de le suivre sur des tournées, de faire quelques premières, tout ça. Et puis à un moment donné, parce que je recontextualise quand même pour les auditeurs qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question c'est clairement posée et de manière très précise, est-ce que tu vas faire une carrière à Paris, en studio, etc., parce que t'avais toutes les armes qu'il fallait pour, ou alors est-ce que tu revenais ici à Agen où tu sentais qu'on avait aussi besoin de toi d'une autre manière.
Ouais, exactement. Ouais. Et comme on l'a dit, pour me mettre au service des gens, garder aussi ma liberté et créer mon propre chemin qui ne m'appartient qu'à moi, avec peut-être des aléas et des fausses routes, mais peu importe. Et je me dis, ok, je vais choisir cette route-là parce que c'est celle qui fait sens pour moi et j'avais besoin de mettre le sens au centre de ma pratique, quoi. Et donc, ça s'est fait comme ça. J'ai créé mon premier petit studio pour donc me mettre dans un premier temps aussi au service des artistes. Donc j'ai enregistré un premier album avec un artiste, Olivier Béranger, que j'avais rencontré à Stafford, aux Voix du Sud. Donc une immersion tout un été, là on a enregistré ça, voilà, très belle expérience. Et des suites de ça, j'ai commencé à accueillir des gens petit à petit qui venaient enregistrer avec moi. Et moi j'adorais ça, j'ai toujours adoré ça, me mettre au service des projets, des artistes, m'effacer, disparaître et faire en sorte que mes capacités musicales, techniques aussi d'enregistrement et tout, puissent permettre aux artistes de se dévoiler encore mieux. Donc ça c'était vraiment génial. Et à ce moment-là, j'ai eu quelques expériences de gens qui venaient au studio, qui n'étaient donc pas forcément des professionnels, etc., mais qui se découvraient une sensibilité à la musique, qui avaient envie d'aboutir quelque chose, et où il y avait des espaces comme ça qui se créaient avec ces gens très 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 profonds et qui dépassaient largement le cadre simplement musical, où il y avait vraiment des enjeux psychologiques, émotionnels très très forts qui se jouaient, mais parce que la musique emmène ça, on sait tous qu'écouter une musique, alors a fortiori la faire et tout ça, ça déploie des choses très très fortes en soi. Et aussi parce que je pense que avec le temps et ma pratique au service comme ça d'artiste et ça, j'ai développé peut-être une forme d'écoute et qui fait que les gens se livraient et commençaient à ouvrir des vannes et des portes et tout ça. Et donc je me suis dit, il y a quand même des choses qui se jouent dans mon espace de création là, qui dépasse la musique et dans un domaine dans lequel je ne suis pas vraiment compétent. Moi, j'ai toujours été très intéressé par la psychologie et tout ça. J'avais 10 ans, j'avais acheté des bouquins de Freud déjà, je ne comprenais rien, mais ça m'intéressait.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit...
Parce que tu n'es pas parti du côté le plus facile, quoi.
Non, mais
à 10 ans, Freud, c'est pas mal.
Tu vois, ça me passe...
C'était mystérieux, peut-être.
C'était mystérieux, il y avait un truc qui me fascinait.
Il y avait des histoires.
Il y avait cette histoire, ce côté histoire, ce côté... qu'est-ce qui se passe dans... C'est inconscient, ça, dans nos têtes et tout, tu vois, ça m'a toujours fasciné. Bref, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ben, en fait, il y a un domaine de compétences que je peux peut-être déployer à cet endroit-là, la musicothérapie, je ne savais pas très bien ce que c'était, je me suis un peu renseigné, je me suis dit, ben ouais, ça m'a l'air très, très intéressant. Et donc, en parallèle de ma carrière naissante et du studio, j'ai passé... un an à Paris, ça devait être une semaine par mois, un truc comme ça. C'était compatible du coup avec le reste de ce que je faisais pour me former à la musicothérapie au Centre National de la Musicothérapie, un des premiers centres en France qui avait été créé en partenariat avec Yehudi Menouin à l'époque.
Ooh.
Ouais, ouais, qui avait parrainé le lieu avec plein de formateurs. Et ça a été vraiment une expérience vraiment, vraiment géniale. J'ai adoré ça. Toute la partie psychologique, les enjeux de transfert aussi qui peuvent se jouer dans une relation thérapeutique et tout ça. Et moi, j'ai reconnu beaucoup de choses qui se faisaient malgré moi dans ces espaces de création. Et donc, ça a été vraiment super intéressant et très formateur.
Et tu amènes tout ça dans ton studio, l'atelier à Pont-du-Casse.
Ouais, du coup, j'ai amené ça au studio. Alors, pendant quelques temps, j'ai fait un peu d'accueil, on va dire, individuel. Donc, des gens qui venaient au studio avec des problématiques diverses et variées où on travaillait sur un déploiement... avec comme outil la musique, quoi, essayer de les accompagner sur un chemin avec la musique.
Et tu rends accessible la musique, parce que c'est vrai qu'il y a des artistes, je dis pas ça pour critiquer, mais qui sont dans leur art à eux, dans leur bulle, c'est le cas de le dire, et qui n'arrivent pas à aller partager, à être dans l'empathie, tout ça. Toi, tu ouvres des vannes, tu ouvres des portes, ouais. Et tu leur permets en fait d'entrer dans ce monde-là aussi, parce que moi je suis convaincue qu'on est tous des artistes. Les gens, quand ils filent à la retraite, ils vont faire soit de la peinture, soit du théâtre, ou alors ils s'embêtent beaucoup.
Ouais.
Voilà.
Absolument. Ouais. Ben, d'ailleurs, le mémoire que j'ai écrit en fin de formation de musicothérapie, je l'ai appelé la musicothérapie, une thérapie à quatre mains. Et vraiment, mon axe de recherche à ce moment-là, j'avais monté un projet à la Candélie avec une danse thérapeute et tout ça. Mmh. Et mon axe de travail que j'avais mis en place, c'était vraiment d'essayer de voir dans quelle mesure je pouvais, moi, donner aux gens des outils que moi j'ai de compétences, que ce soit dans la musique, dans l'enregistrement, qui est un outil aussi hyper fort pour s'entendre et tout. Enfin, bon, voilà, on va pas faire le détail, mais mettre mes compétences au service des gens qui n'ont pas ces compétences-là pour qu'ils puissent vivre eux-mêmes un cheminement créatif et cette sorte d'élan comme ça et de matérialisation de sa créativité dans un objet qui va être valorisant aussi, une musique, un truc, un morceau, un poème, quelque chose. Et que cette créativité... tout le monde l'a en soi, et que s'ils vivent ce chemin-là à un moment donné dans un espace de thérapie ou quelque chose comme ça, ils peuvent peut-être ressentir ça et revivre ce chemin-là dans d'autres espaces personnels, dans des enjeux plus intimes de vie compliquée ou des choses comme ça.
Et j'aime bien la phrase « tout le monde l'a en soi », en fait. Même toi, Jean-Paul, qui est artiste, c'est beau quand même d'avoir des artistes comme ça qui partagent et qui donnent.
Oui, et qui sont empathiques,
ouais,
et qui servent de déclencheur. À des émotions retenues.
Ouais,
donc,
d'ailleurs,
c'est un travail très utile.
J'ai eu beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément venus en thérapie au studio, mais qui n'étaient pas du tout des professionnels, qui avaient une maîtrise très, très primaire de ce qu'ils faisaient, mais ils avaient un bout de texte ou un truc comme ça. Et moi, j'ai toujours accueilli ces gens comme si c'était des artistes aboutis, et je mettais à leur service vraiment toutes mes compétences pour essayer de valoriser aussi les choses et qu'ils sentent ce truc-là eux-mêmes. Ouais, tout à fait.
Et tu organises aussi des ateliers d'écriture dans les écoles.
Ouais, ça aussi, ça s'est fait. J'adore, c'est super. Bah, les enfants, moi, j'adore l'enfance. Ah. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. Plus je vieillis et j'ai des enfants maintenant et tout ça, et ça fait vibrer ma corde nostalgique et en même temps le merveilleux et l'émerveillement de l'enfance. C'est surtout ça, quoi. Donc j'adore aller dans des écoles, surtout dans le primaire, écrire avec les enfants.
Tu joues des spectacles pour enfants aussi, si je ne m'abuse.
J'ai plusieurs spectacles pour enfants aussi.
Ouais, en solo, avec David Tormena,
David Tormena, on a un très chouette spectacle, conte et musique. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les enfants, bah, ils sont hyper spontanés et c'est génial.
En 2017, dans ma cabane, qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, et ben ça c'est justement...
C'est un album?
De chansons pour enfants, une sorte de compilation.
Incroyable.
Ouais, j'ai dans tous les ateliers que j'ai fait dans les écoles, j'écris des chansons, je les ai compilées, on a fait un album, ouais.
Et ce qui est bien, c'est que c'est un artiste qui se retient pas, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est bien parce qu'il y en a, ils auraient tendance à dire, bah non, mais moi, je suis identifié, je dis n'importe quoi, rocker, et je vais rester rocker, machin. Ouais. Toi, non.
Il touche à tout.
Moi, j'aime les projets, en fait.
Ouais.
Voilà, j'aime les projets. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec une compagnie de théâtre, avec Romuald Boris, que je salue,
ah ouais,
que
pareil.
J'adore.
Ouais.
Et donc, j'ai travaillé avec eux sur plusieurs spectacles de théâtre musical. donc tous les étés j'allais au festival d'Avignon faire cette j'ai vécu cette vie là aussi.
Un chic type, Romuald.
Bah ouais,
j'adore. Il est trop bien.
On a vécu des grands moments ensemble. Ouais. Non, moi j'adore les projets, j'adore faire des voilà, monter des projets tous très différents. J'ai sorti des albums de musique instrumentale, j'adore ça quoi. Ouais.
Et là, actuellement, il y a aussi un projet que tu voudrais défendre, c'est la production de l'album de Kelly Ora.
Ouais, tout à fait. Kelly.
Hymno vivant.
Ouais, non, alors l'hymno vivant, c'est un des morceaux. Ouais. L'album s'appelle Marcher en soi.
Voilà, Marcher en soi.
Donc voilà, mais c'est une artiste aussi qui me rejoint et qui m'a touché quand je l'ai rencontrée parce qu'elle est aussi dans son art et puis dans sa vie, du coup, aussi très sur le lien, l'empathie, la lumière, la verticalité.
Elle est d'ici ?
Non, pas du tout. Elle est nomade, en fait.
Ok, bon, très bien.
Elle a une partie de sa famille à Paris. Ouais, mais elle vit sur la route. Elle vit. Alors elle a vraiment fait des choix radicaux.
Ouais.
Elle vit son projet de musique et d'aller où on l'appelle et elle va jouer. Donc elle a un petit camion, elle a sa vie dedans. Et ouais. Elle fait le tour de France, de Belgique et de Suisse et de tout ça. Et elle va dans les endroits où on l'a fait venir. Mais bon, dans ce monde-là, elle commence à vraiment faire un peu son trou. Donc elle joue beaucoup, beaucoup.
Elle a une caravane ?
Elle n'a pas une caravane, elle a un petit kangou.
Ouais, d'accord.
Ah ouais, okay. Non, c'est roots. Ouais. Hein. Ouais, elle a un petit kangou. Alors évidemment, comme elle joue beaucoup, elle se fait aussi beaucoup loger chez les gens.
D'accord,
chez
ok, ouais.
Mais elle a vraiment cette vie nomade, quoi.
Et son univers, c'est plutôt instrumental, c'est ça ?
Alors elle chante. Ouais, elle fait partie de ce monde que moi j'ai découvert un peu avec elle, en fait. Hein. Ils appellent ça, c'est du chant médecine. Et ils chantent du mantra beaucoup. Donc ça vient un peu de la tradition indienne, on va dire, des mantras indiens. Bon, là, c'est vraiment la tradition indienne.
Lesquels ?
Ouais, d'accord, les indiens d'Inde, quoi. D'accord. Donc il y a ce qu'on appelle les mantras, c'est des mots sacrés qui vont répéter, souvent chanter, qui vont répéter un certain nombre de fois, souvent beaucoup de fois. Et la répétition, le fait de le chanter, les syllabes qui sont utilisées, donc dans la théorie, on va dire, indienne et tout ça, ça crée des choses sur les chakras, sur les énergies, ça crée des vortex aussi quand ils sont nombreux à chanter, etc. Bon, ça, c'est vraiment le côté très carré du mantra indien.
Et enveloppant en même temps.
Très enveloppant, hyper. Ouais. Et donc, en fait, ils font, Kelly m'a fait découvrir ça, ils organisent, ils parlent même pas de concert, ils parlent de cercle de chant. Donc, en fait, les gens sont ensemble, ils chantent et tout le monde chante ensemble. Mmh. Alors ça rappelle beaucoup les années 70 et l'époque hippie et tout ça.
Ouais.
Et c'est un monde, moi, que je connaissais pas. Et c'est un monde hyper vivant où il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dans cette demande-là aujourd'hui aussi, dans un monde fracturé, un peu chaotique.
Anxiogène un peu avec l'actualité récente, les amis.
Et là, il y a vraiment des espaces de soins aussi qui se passent par la musique avec...
Et concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour elle ? Tu as prêté ton studio, elle est venue enregistrer. Tu as joué des instruments.
Exactement. Elle est venue il y a 2 ans faire son premier album. Ça a été la première fois où on s'est rencontrés. Des suites de ça, on a sorti un album en duo qui s'appelait À la rencontre. Donc, c'est des textes qu'on a coécrits, des musiques que j'ai faites ou qu'elle a faites, voilà, avec des textes, on va dire, à connotation spirituelle assez forte.
Et ça chante français ?
Alors, elle chante en français, en anglais, en espagnol, en hébreu aussi.
Waouh.
Voilà.
Okay.
Donc, c'est très world,
bah, c'est bien. World music un c'est peu, pour lier les gens.
Ah ben, de toute façon, c'est vraiment son truc, c'est vraiment ça.
Ouais.
Et là, son nouvel album, ben, elle m'a demandé si j'étais partant pour bien sûr le faire avec elle. Moi, j'ai bien sûr dit oui parce qu'on s'adore et que j'adore musicalement ce qu'elle fait et qu'on est vraiment connectés. Et donc, ça fait. C'est une des parties aussi de mon travail aujourd'hui. C'est des artistes qui viennent au studio, qui me confient leurs morceaux et moi je réalise l'album, c'est-à-dire que je conçois toute la partie arrangement, le fonctionnement de l'album, comment il va s'équilibrer, quel choix faire, en partenariat bien sûr avec l'artiste. Mais ça a été un gros travail qu'on a fait de production de cet album cet hiver. Là, il y a 16 titres.
On va en écouter un.
Hein. Avec plaisir.
Je crois que c'est le plus simple.
Avec plaisir.
Hein. On va écouter Hymno vivant de Kelly Ora. Produit et arrangé par Cédric Moulier.
Absolument.
Sur Radio Bulle, les amis, à tout de suite.